Les conférences du Collège de France.
Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus ici pour ces conférences du professeur Kenichi Abe, que j'ai le plaisir d'accueillir ici. Kenichi Abe est professeur de littérature comparée à l'Université de Tokyo. Et à l'Université de Tokyo, professeur Abe joue un rôle vraiment majeur dans le développement de la littérature comparée, qui n'est pas une discipline historiquement très présente au Japon. Oui. Mais grâce à vous, Kenichi, effectivement, cette discipline se développe et je vous en suis très, très redevable. Mais le professeur Abe est d'abord un remarquable spécialiste de la littérature tchèque. Il a notamment consacré des travaux importants à des figures majeures comme Václav Havel et Milan Kundera. Et le parcours de professeur Abe est aussi celui d'un polyglotte exceptionnel. Il maîtrise l'anglais, le tchèque, l'allemand, le polonais et le français aussi, comme vous allez l'entendre, parce que le français, Kenichi Abe l'a appris ou l'a approfondi en tout cas lors de ses études doctorales à Paris. Et puis je ne mentionne pas le japonais, mais c'est sa langue, c'est sa langue maternelle. Kenichi Abe est l'auteur de 5 ouvrages en japonais, parmi lesquels une étude sur la poétique de Jerry Kollar, je ne sais pas si la prononciation est bonne, un livre consacré à Prague et à ses représentations chez des auteurs et des artistes aussi divers que Rilke, Mucha ou Janáček, un travail sur le critique et artiste Karel Taïge, ainsi qu'un ouvrage sur Václav Havel, La puissance de l'impuissance. Et le dernier livre de Kenichi Abe, paru en 2024, porte sur la traduction et les paratextes, à partir notamment des linguistes Josef Jungmann et Pavel Eisner, et de Milan Kundera. Et je dirais qu'à cet égard, c'est quelque chose qui me frappe depuis que je fréquente, et je le fréquente depuis assez longtemps, l'université japonaise et les spécialistes japonais de littérature. Je crois qu'on pourrait dire, et il y a un petit paradoxe là-dessus, mais ce n'est pas un tel paradoxe, que la connaissance du japonais permet, grâce à des gens comme Kenichi Abe, permet aujourd'hui de mieux comprendre la littérature tchèque, bizarrement. Et je pourrais le dire ça pour les autres langues européennes, parce qu'il y a beaucoup de travaux remarquables qui s'écrivent en japonais sur les littératures européennes, y compris la littérature française, c'est le domaine que je connais le mieux du côté des collègues japonais. Ils font des choses absolument formidables, mais tout cela reste largement ignoré en France, faute de traduction, parce que les traducteurs du japonais en français se tournent le plus souvent vers la fiction plutôt que vers les essais. Et donc il y a là tout un continent d'études sur les littératures européennes qui mériterait d'être plus connu en France et en Europe. Mais Kenichi Abe est aussi également un traducteur de tout premier plan. Il a traduit en japonais une 30aine d'œuvres de la littérature tchèque, notamment de Milan Kundera, Karel Čapek, Václav Havel ou Bohumil Hrabal. Et d'ailleurs, pour ce travail de traducteur, il a reçu en 2015 le principal prix de traduction au Japon, ainsi que le 76e prix littéraire Yomiuri dans la catégorie critique littéraire pour son livre « Traduction et paratexte », son dernier livre. Par ailleurs, et cela nous concerne aujourd'hui, Kenichi Abe dirige les archives du romancier japonais et prix Nobel de littérature Kenzaburo Oe, qui sont conservées à l'université de Tokyo et qui contiennent 19 000 pages de manuscrits, ce qui est vraiment énorme. Et à partir de ces manuscrits exceptionnels, dont il est le meilleur spécialiste, il a développé une réflexion passionnante qui relève de la critique génétique. Et c'est pourquoi, sur ma proposition, l'Assemblée des professeurs du Collège de France a invité le professeur Kenichi Abe à donner 2 conférences. Alors, la seconde conférence se tiendra la semaine prochaine, le 24 mars, à 15h, ou bien, je vais voir ça peut-être à 15h30, peut-être qu'on décalera l'heure, je vous serai informé de regarder ça sur le site éventuellement, il pourrait y avoir un décalage d'une demi-heure, et elle portera sur les traductions de littérature japonaise pendant la guerre froide, problème intéressant puisqu'il apparaît, mais c'est ce que le professeur Abe montrera, qu'il y a une réception un peu différente de la littérature japonaise en Europe de l'Ouest et en Europe de l'Est pendant la guerre froide. Par ailleurs, Kenichi Abe a découvert cet automne les manuscrits de 2 nouvelles inédites de Kenzaburo Oe. Ces nouvelles datent de 1957 et ce sont, à ce jour, je crois, les premières œuvres connues d'Oe. Il vient de les publier dans une revue japonaise, c'est tout récent, c'était au mois de mars, je crois, et c'est vraiment un événement majeur pour la littérature japonaise. J'espère que ces textes seront bientôt traduits en français. Il y a ici une des grandes traductrices de Oe présente ici. Il parlera de ces manuscrits, entre autres, lors d'une conférence exceptionnelle à l'Institut des textes et manuscrits modernes, l'ITEM, qui est le temple de la critique génétique. Je salue ici Nathalie Ferrand, la directrice de l'ITEM. Et cette conférence aura lieu à l'École normale supérieure, 45 rue d'Ulm, en salle des actes, le lundi 23 mars, de 17h à 19h. La conférence s'intitulera « Comment lire et analyser les manuscrits de Kenzaburo Oe ». Et vous y serez, bien sûr, les bienvenus. Mais aujourd'hui, c'est déjà de ces manuscrits tout à fait spectaculaires de Kenzaburo Oe que va nous parler Kenichi Abe. Je dis spectaculaire parce que j'ai eu la chance de les voir même l'an dernier, et ils sont assez impressionnants. Et Kenichi Abe donc va donner, dès maintenant, tout de suite, une conférence intitulée « L'univers des manuscrits de Kenzaburo Oe ». Je suis donc très heureux de vous céder la parole, Kenichi. À vous.
Merci. Je prends le micro, là. Merci. Cher Williams, merci pour l'introduction. Merci. Je suis très, vraiment en grand plaisir d'être ici, de parler devant vous sur un manuscrit de Kenzaburo Oe. Donc, de nombreux essais ont déjà été publiés sur Kenzaburo Oe, lauréat du prix Nobel Littérature en 1994. En France également, Philippe Frolest, Antonin Béchler et d'autres auteurs ont consacré des ouvrages à cet écrivain japonais. L'analyse thématique et l'interprétation des œuvres d'Oe actives pendant plus d'un demi-siècle dans le domaine du roman et de la critique continueront sans doute de se développer dans les années à venir. Mais aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention sur un aspect encore très peu exploré, ces manuscrits autographes. C'est un domaine largement méconnu et peut-on essentiel pour comprendre la genèse de son écriture et la manière dont il élaborait sa pensée littéraire. En 2021, alors qu'il était encore en vie, plus de 10 000 pages de manuscrits autographes ont été déposées à l'Université de Tokyo. Une quantité considérable de documents jusqu'alors inconnus, tels que des manuscrits, des épreuves, ont soudainement fait leur apparition. En 2023, la bibliothèque Kenzaburo Oe a été ouverte à la faculté des lettres de l'Université de Tokyo, où il est désormais possible de consulter des manuscrits numérisés. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la richesse de l'univers que le présente l'étude de manuscrits autographes d'Oe et vous montrer en quoi leur lecture diffère de celle de textes imprimés. D'abord, avant d'aborder des manuscrits, présentons d'abord brièvement sa vie. Oe est né le 31 janvier 1935 dans un village de montagne de l'île de Shikoku, entouré de vastes forêts. Sa famille y vivait depuis plusieurs générations dans cette localité située à 850 km de Tokyo, connue notamment pour la prospérité de son industrie papetière. La distance qui sépare cette région de la capacité à favoriser l'émergence d'un dialecte ainsi que des mythes et de coutumes propres à ce territoire. Ce qui a sans aucun doute nourri à l'imagination d'Oe. Les villageois, soumis à l'intelligence du gouvernement central, sont souvent confrontés à des exigences démesurées, comme des taxations excessives, ont parfois exprimé leur résistance. Le conflit entre le centre et le périphérique se manifestait également comme un affrontement entre le discours central et le discours périphérique. Et comme nous le verrons plus loin, il utilise une méthode qui consiste à citer les voix des personnes marginalisées qui n'ont pas été reflétées dans l'histoire centrale. Les préoccupations du gouvernement central et des légions sont également clairement reflétées dans le reportage « Notes de Hiroshima » publié en 1965 consacré aux victimes de la bombe atomique, ainsi que dans l'essai « Notes d'Okinawa » publié en 1970. Archipel qui fut le plus grand champ de bataille du Japon et resta sous domination américaine jusqu'en 1972. Oe est certes originaire d'un petit village, mais c'est la lecture qui lui a ouvert les portes du monde. Enfant, sa mère lui a donné la traduction de Des aventures de Huckleberry Finn par Mark Twain. Au collège, il a lu Le dernier Dieu condamné de Victor Hugo. Et au lycée, il a lu avidement Réflexion sur la guillotine d'Albert Camus, Coup l'étranger. Après avoir lu l'ouvrage La Renaissance française de Kazuo Watanabe, son futur mentor, il décida de poursuivre ses études à l'Université de Tokyo, où enseignait ce dernier. Et se spécialisa en littérature française. Et c'est pendant ces années universitaires qu'il s'est révélé comme écrivain. Les mythes et l'histoire riche de sa terre natale, ainsi que le monde de la littérature étrangère, découverts à travers la lecture, se sont entremêlés dans le Tokyo de l'après-guerre. Et il s'est imposé comme l'un des écrivains représentatifs de la littérature japonaise de la seconde moitié du XXe siècle. Jusqu'à la publication de son dernier roman Banen Yoshikishu, In Lake Style, en 2013, il a exercé une influence considérable sur de nombreux écrivains japonais et étrangers. Divers qualificatifs ont été employés pour qualifier l'œuvre de Kenzaburo Oe. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est sa profonde conscience de l'acte de l'écrire. Il était certes romancier et essayiste, mais il cherchait aussi d'appréhender le processus d'écriture à la fois manuelle, objective et subjective. Cette démarche a abouti à son ouvrage « Notes littéraires » publié en 1974. Selon ses propres mots, ce livre constitue un rapport clinique analysant son propre processus d'écriture. Pour faire remonter les images enfouies au plus profond de la conscience, l'auteur doit observer son fort intérieur comme s'il s'agissait d'un pneumatophore, une racine respiratoire. C'est là que se trouve la source des images, mais il ne suffit pas d'en extraire les plus superficielles. Il faut aussi donner forme à celles qui sont intimement liées à son propre corps et à sa propre conscience. Je cite une phrase d'ici. Une phrase ambiguë doit absolument être remplacée par une phrase précise. Pour cela, il faut l'écrire plusieurs fois. Mais si l'on ne parvient vraiment pas à trouver une phrase précise, il vaut mieux supprimer complètement cette phrase. C'est plus expressive qu'une phrase ambiguë. En fin de compte, le principe de la deuxième version consiste davantage à supprimer qu'à ajouter. C'est en supprimant que l'on fait ressortir la force expressive du texte. L'écrivain doit souvent se persuader et s'encourager ainsi. Plus le doigt qui efface que le doigt qui écrit. C'est pourquoi, lorsqu'il écrit ses romans, il dit qu'il frotte son existence contre la lime la plus dure qu'il soit. Autrement dit, deux têtes s'affrontent dans un combat acharné, engageant à la fois leur conscience et leur corps. Les traces qui en subsistent ne sont rien d'autre que ses manuscrits autographes. Parmi ses nombreux romans, nous allons aujourd'hui nous intéresser au roman Le jeu du siècle. Oe lui-même qualifie cette œuvre de point de dépassement, car ce roman marque un tournant dans sa carrière littéraire. Comme la plupart des œuvres de littérature japonaise, ce roman a d'abord été publié en feuilleton dans le magazine mensuel Gunzo de janvier à juillet 1976. Avant de paraître sous forme de livre en septembre de la même année. Le roman, composé de 13 chapitres, est raconté à la première façon par Mitsuzabelo, autrement dit Mitsuru. Âgé de 27 ans, Mitsu a quitté son poste de professeur de l'université et travaille désormais comme traducteur. Il a placé son enfant handicapé qu'il a eu avec sa femme Natsuko dans un établissement spécialisé. Et il est bourrevessé par l'amour mystérieux d'un ami. Son frère Takashi, qui avait autrefois participé aux manifestations contre l'impôt, ce que je vais expliquer tout de suite, est revenu au Japon après avoir voyagé aux États-Unis et persuade Mitsu de le trôner dans la forêt de Shikoku, leur région natale. Le but de ce tour était de vendre la maison familiale et de découvrir de la vérité sur les événements qui ont entraîné leur arrière-grand-père et son frère, impliqués dans une révolte 100 ans plus tard. De retour dans leur région natale où réside la puissance de la forêt, ils sont confrontés à divers événements et souvenirs. Expliquons un peu le contexte historique. Les manifestations contre l'impôt dans lesquelles Takashi était impliqué étaient un mouvement national qui s'est développé en 1960 pour s'opposer à la révision du traité de sécurité entre les États-Unis et le Japon. De nombreux citoyens, en particulier des étudiants, ont mené une campagne d'opposition, estimant que ce traité autorisait la présence de l'armée américaine au Japon et entraînait le pays dans la guerre menée par les États-Unis. Mais en mai de la même année, le traité a été adopté par la Chambre des représentants. Les étudiants et les travailleurs ont organisé des manifestations dans tout le pays, dans ce qui est considéré comme le plus grand mouvement de l'histoire japonaise d'après-guerre. Mais le vote du gouvernement a finalement été qualifié de crise démocratique. Les contestations populaires mentionnées dans cet ouvrage ne se limitent pas aux manifestations contre l'impôt de 1960. L'arrière-grand-père de Takashi et Mitsu et son frère ont participé à la révolte paysanne de 1860. Selon le calendrier japonais, la première année de Manne. Le titre original japonais du roman Football en 1860 fait référence à cette débauche. Ainsi, son temps s'écoule dans le roman sur l'effet de l'imagination mythique. Complétons encore le contexte extérieur au texte. En 1967, année de publication de l'œuvre, de nombreux événements étaient organisés pour célébrer le centenaire de l'instauration de l'ère Meiji en 1868. L'ère Meiji marque le passage du système shogunal de l'Edo à une modernisation de type occidental. Mais elle a également été un tournant décisif avec la centralisation croissante et la minoration des cultures et des langues régionales. Il va sans dire que l'amplitude entre deux périodes de cette sont mentionnées dans le texte, 1860 et 1960, et celle présente en dehors du texte, 1868 et 1968, a eu un impact considérable sur l'exception de ce roman. Voyons tout de suite un des manuscrits. C'est la première page du manuscrit autographe du jeu de siècle. À droite, on peut voir la dédicace adressée par Oe, son éditeur. Oe offrait en effet souvent ses manuscrits à ses éditeurs. Et les manuscrits du jeu de siècle ont été aussi conservés pendant longtemps par son éditeur. À gauche, on voit la première page du roman. Avant d'analyser le brouillon, expliquons d'abord ce qu'est le papier manuscrit. Le papier manuscrit, genkoyoshi en japonais, est une feuille cadelière utilisée pour rédiger des textes à la main. Chaque case accueille un caractère japonais. Et une feuille standard contient 415 20 lignes, voire 20 colonnes. L'écriture se fait verticalement de haut en bas, de droite à gauche. Au XXe siècle, les écrivains japonais écrivaient sur ces papiers manuscrits qui étaient utilisés avant tout pour faciliter le comptage des caractères. Ce que nous voyons ici, c'est la première page du manuscrit de la nouvelle La face de mort, Shishan Ogori, écrite par Oe lorsqu'il était encore étudiante à l'université. Comme s'il s'agisse de son premier ouvrage, Oe écrit dans ses cases, mais plus tard, il commencera à ajouter des annotations en dehors de cases. Le roman Le jeu de siècle a été écrit sur des papiers manuscrits de 400 caractères, puis publié dans le magazine Gunzo, après quoi les manuscrits ont été reliés. Il y a 708 feuilles en total. Sur la page de garde de chaque volume relié, on trouve une dédicace ou le titre du chapitre écrit à la main par Oe. La particularité du manuscrit réside dans l'utilisation d'un stylo plume à bleu. Les corrections apportées permettent de lire les caractères d'origine. Oe a longuement peaufiné son texte, allant parfois jusqu'à coller des passages du manuscrit, ce qui laisse supposer qu'il était susceptible de les utiliser à certaines expressions jusqu'à la toute fin. Nous allons maintenant poursuivre l'analyse du manuscrit. Ce roman devait être publié chaque mois dans un magazine d'une centaine de pages manuscrits et ce manuscrit se trouvait à un stade préalable à sa remise à l'éditeur. Par conséquent, il comporte des ajouts et des corrections au niveau des mots et des phrases, mais pratiquement aucune modification au niveau de structure générale. D'autre part, comme de nombreuses tâches sont effectuées en parallèle au cours d'un mois, telles que les actions du manuscrit, sa révision et la vérification des épreuves, on peut observer de nombreux changements importants dans le manuscrit à ce stade. Le chapitre 3, La puissance de la forêt, commence par le tour de Mitsu et de sa femme dans la forêt Shikoku, loi terre natale. Une force qui dépasse l'entendement humain se cache dans cette forêt dense. Et Mitsu, qui n'y était pas revenu depuis longtemps, perçoit également la présence de ses ancêtres qui continuent d'y vivre. Je cite ici, « Au-dessus de nos têtes, immobilisées en ce point de la route forestière qui semblait creusée, un fossé entre deux cloisons de tuf sombre, s'effilait une bande étroite de ciel hivernal. Le ciel d'après-midi, prémissait, qu'on peut passer de couler et descendait sur nous avec lenteur. La nuit venue, il emprisonnerait la forêt comme une oreille de mer qui le ferme sur sa chair. Cette seule pensée fit surgir en moi un sentiment de claustrophobie. Bien qu'élevé au cœur de la forêt, je ne pouvais dans cette traversée qui l'amènerait à la forêt, me libérait de l'étouffement. Cette sensation était comme vitalisée par sensibilité de mes ancêtres disparus. La forêt était peinte comme un monde parallèle doté d'un autre qui lui est propre, que l'on ne le sent pas le sentiment de sécurité que l'on éprouve dans son pays natal. Mitsu, qui le sont particulièrement la présence de ses ancêtres défunts, pénètre dans la forêt, en bas, en bus, puis à pied. On les réitère, ce monde chaotique se le trouve également dans le manuscrit original. Des hachures sont tracées verticalement et horizontalement, et des mots sont insérés dans le texte comme des branches. De plus, des mots sont ajoutés dans les espaces vides en haut et en bas, ce qui rend difficile la lecture linéaire du texte. Comme s'il explorait une forêt sans chemin, le lecteur doit vérifier à la main les suppressions et les insertions pour pouvoir continuer à lire. Le manuscrit qui évoque une forêt chaotique compte 22 pages. Mais à la 23e page, les ratures disparaissent soudainement. C'est un extrait d'un article de journal sur la femme Jin. Le titre est écrit en gras. Malgré quelques petites corrections, le texte est désormais stable. Contrairement à ce qui précède, Jin, la femme la plus grosse du Japon, âgée de 45 ans, mère de 4 enfants, pèse 132 kilos. Depuis 6 ans, Jin ressent constamment la faim et doit sans cesse manger quelque chose. Elle est venue dans ce village pour s'occuper de Mitsu et depuis lors, elle veille sur leur maison. Donc pour Mitsu, qui n'a pas plus de parents, elle joue également un rôle maternel. Jin est aussi la personne la plus enracinée dans cette région. Et contrairement à Mitsu, qui n'a pas d'attache, elle est extrêmement stable. Cette stabilité transparaît dans le manuscrit non corrigé. En d'autres termes, il est probable que l'auteur ait déjà écrit cette partie avant de rédiger le code de texte. Cela montre que l'auteur accordait une grande importance la création de personnages matériels courts, source de stabilité et acceptant le chaos. Les manuscrits autographes sont bien sûr des supports visuels. Ils fournissent des informations différentes de celles contenues dans le texte imprimé ou traduit. Les hésitations ou les fluctuations de l'auteur se reflètent dans le caractère manuscrit et l'ouverture. Naturellement, les passages plus modifiés sont ceux auxquels l'auteur accordait de l'importance dès la première étape de la rédaction. Nous allons donc nous concentrer sur ces passages plus modifiés. Le premier exemple est l'utilisation des langues étrangères. Ce qui suit est un extrait du chapitre 7, la connaissance de la danse d'invocation. Après avoir passé une nuit dans son village natal, Mitsu le sent un sentiment de liberté qu'il n'avait jamais éprouvé à Tokyo. Il se souvient alors de la coutume ancestrale de la danse d'invocation et au cours de conversation avec l'adjoint au maire, il lui demande pourquoi cette danse était pratiquée chez lui. Ce dernier lui répond que c'est le lieu de la racine de l'âme des gens de la forêt. Ka, loa, nom, famille et nedokoro. Perplexe face à cette réponse, Mitsu le mémore son retour au village natal comme suit. Ce sentier en forme de coque de navire que j'avais dévalé en le trouvant, mes sensations d'équilibre d'enfant, je le gravissais en achevant à d'inquiétants obstacles. Évidemment, j'étais assez troublé par la pensée que non seulement le sentier, mais toute la vallée me serait devenue totalement étrangère. Mais en revanche, je m'étais affranchi de cette culpabilité que j'avais tout d'abord éprouvée à mon retour et qui consistait dans la crainte d'avoir perdu mon identité. À l'ensemble de la vallée qui m'accusait, tu ressembles à un rat. Je pouvais agressivement le rétorquer. Comment osez-vous en prendre un étranger, un autre, absolu. Dans cette vallée, je ne suis qu'un passant borgne. Empâté avant lors, aucun objet de vallée ne peut évoquer, aucun souvenir ne susciter aucune vision de mon prénom. Ou pour moi, je peux prétendre à l'identité un rat. Mitsu, qui vit à Tokyo et a perdu ses racines, ne parvient pas à trouver sa place dans la ville natale. Il a le sentiment d'avoir perdu son identité. Il va sans dire que le mot identitaire est au cœur de ce paragraphe, plus largement de ce chapitre. Ce que la traduction française ne laisse pas apparaître, c'est l'astuce que O.R. utilise pour mettre en valeur ce terme clé. Il insère le mot anglais « identity » tel quel dans le texte japonais. Ici, comme vous voyez, ici, O.R. écrit « identity » en anglais. Lorsqu'on utilise des mots étrangers dans un texte japonais, plusieurs choix s'offrent à l'auteur. Traduire en japonais, soit les écrits en katakana qui permettent transcription phonétique, ou conserver le mot tel quel en anglais dans ce cas. Il s'agit donc de choisir entre une traduction assimilatrice et une traduction étrangisante. OE privilégie très souvent cette dernière. C'est-à-dire qu'il maintient l'expression étrangère dans sa forme originale. Ce choix produit deux effets majeurs. D'une part, il met visuellement en relief le mot étranger. Son graphisme diffère du reste du texte, ce qui attire immédiatement l'attention du lecteur. Le nom de famille du protagoniste est Nedokoro, ce qui signifie, comme je vous ai dit, racine. Cela souligne le fait que son œuvre est une quête de ses racines. D'autre part, tout comme le personnage se sent étranger dans la vallée, l'introduction d'un mot non japonais crée un sentiment d'inadéquation entre le concept nouveau d'identité et le contexte culturel dans lequel il apparaît. Le fait que ce passage n'ait pas été modifié dans le manuscrit montre que Oe avait pleinement conscience de l'effet produit par l'usage d'une langue étrangère dès les premières étapes de la rédaction. Dans ce manuscrit, on trouve également d'autres passages qui ont été très peu modifiés. Il s'agit notamment des passages citant d'autres textes. Voici un exemple, un extrait du journal intime du frère aîné de Mitsu qui a participé à la Seconde Guerre mondiale. Je cite en français ici. Hein. Notre frère aîné avait étudié l'allemand en fac. Il emploie le mot Zusammengeschafft et écrit ensuite que l'armée est une cohue de bombes, à rien. Il a donné un coup de poing à un type qui avait montré des signes de faiblesse au cours de l'entraînement de la campagne, et celui-ci s'est suicidé en laissant un mot ironique disant qu'il était désolé pour le commander de compagnie. Or, le commandant de la compagnie, c'était précisément notre frère aîné. Mais enfin, écrit-il, dans quel état se trouve le Japon d'aujourd'hui? C'est le chaos à la lettre, absolument anti-scientifique, sans la moindre trace conscience. En plus, il est indécis. Ce passage est tiré d'un recueil de textes posthumes, l'assemblant des journaux intimes, des correspondances et des poèmes des élèves de l'ancienne école secondaire de Shizuoka qui ont été mobilisés. Cet ouvrage a été publié à compte auteur en 1966 par un comité d'éducation créé au centre université de Shizuoka. Pour commémorer la victime de la guerre, Oe s'est procuré cet ouvrage d'une manière ou d'une autre et il a cité dans son livre. La citation est tirée d'un texte écrit le 4 août 1939 par M. Minoru Ebata après ce drapeau en janvier 1938 et il est mort au combat en Chine en août 1941. Le titre du premier chapitre était « Guidé par un mot ». À la lecture du premier chapitre seulement, on prépensait que l'ami qui a connu une mort mystérieuse est le mort. Mais en poursuivant la lecture, on se rend compte que de nombreux mots hantent le protagoniste. Parmi eux, on trouve les morts de la Seconde Guerre mondiale. Monsieur Ebata, auteur du journal cité plus haut, est décédé à l'âge de 28 ans, comme Mitsu. Je voudrais ensuite aborder la question des titres des chapitres. Voici les titres des chapitres du XIIe siècle. Les titres des chapitres de cet ouvrage présentent toutefois une particularité. Outre le fait qu'ils contiennent quatre citations tirées d'œuvres d'autres auteurs. Chapitre 4 est tiré d'un poème de Edgar Allan Poe, Un rêve dans un rêve, A Dream Within a Dream en anglais. Chapitre 8 est un extrait de recueil de poème Tobar du poète japonais Shuntaro Tanikawa. Le chapitre 11 est tiré des pensées de Pascal. Le titre de chapitre 13 est une citation de Jean-Paul Sartre. Il s'agit de sa préface au livre de Juan Hermanos, La fin de l'espoir, un témoignage sur la guerre d'Espagne, publié en 1950. Ce qui est frappant, c'est qu'en version originale, Oe a également cité les noms des traducteurs. Oe est connu pour faire un usage abondant des citations. Dans ses œuvres, il convient de noter qu'il utilise également des traductions dans le titre de son roman et qu'il va même jusqu'à inclure le nom du traducteur dans une partie du chapitre, comme vous voyez ici. Dans chacun de ces cas, les titres liaisent étroitement avec le contenu de l'œuvre. La citation empruntée à Sartre et le macabre par sa longueur. Dans la traduction française, elle apparaît simplement sous le titre « Mort dans le désespoir », mais en réalité, comme vous voyez ici, il s'agit d'un passage beaucoup plus développé. « Mort dans le désespoir ». Pourrez-vous encore comprendre ce que ces mots veulent dire? Ce n'est rien de mourir, mais mourir dans la honte, dans la haine, dans la horreur, en regrettant d'être né. Donc ce passage qui évoque la mort qui évoque la mort dans la honte, la haine, la horreur fait directement écho à la vérité que Takada évoque dans ce chapitre. Ainsi, les citations utilisées dans le titre ont pour fonction d'évoquer, de suggérer et de souligner certains aspects essentiels du roman. Mais en même temps, ces phrases renvoient explicitement au texte dont elles sont tirées. Par exemple, Sartre évoque tout d'abord les victimes de la guerre civile espagnole qui poussent loi dernier cri. Il affirme ensuite que cette voix n'a jamais été réduite au silence. Elle était aussi celle des Juifs allemands, des Autrichiens, des Espagnols, des Tchèques et des Polonais. Et il déclare « Il faut que vous les lisiez pour apprendre comment on crie la fin de l'espoir, parce que c'est cela bientôt à notre tour. » En indiquant clairement les auteurs cités, Oe invite subtilement le lecteur à se solidariser avec les morts évoqués dans l'œuvre de Sartre. Les citations fonctionnent ainsi à deux niveaux. Elles éclairent le contenu du roman, elles réactivent la mémoire du texte source, faisant résonner dans le récit les voix venues d'ailleurs. Les titres de citations que l'on trouve ici ont une fonction particulière. Il s'agit plutôt d'une fonction d'épigraphe. Selon Gérard Genette, il dit que épigrapher est toujours un geste muet, dont l'interprétation reste à la charge du lecteur. Ainsi, dans le roman d'Oer, les titres jouent un rôle déterminant. Ils orientent la lecture dans deux directions complémentaires. D'une part, il ouvre la voie à une interprétation intertextuelle en invitant le lecteur à dialoguer avec le texte extérieur auquel l'œuvre fait référence. D'autre part, il guide une interprétation paratextuelle en éclairant la manière dont le texte lui-même doit être lu, compris et situé dans l'ensemble de l'œuvre. Comme nous l'avons déjà évoqué, le manuscrit autographe que je viens d'aborder correspond au document remis par l'auteur à son éditeur. À première vue, ils peuvent sembler des objets figés, dans lesquels il sera difficile de retrouver les étapes antérieures du travail d'écriture. Cependant, comme nous l'avons vu, la comparaison entre les passages fortement remaniés et ceux qui l'ont été très peu révélés, très peu de vers une structure plus complexe. Le manuscrit présente en réalité deux niveaux. D'un côté, un noyau textuel conservé depuis l'étape précédente. De l'autre, une couche de modification propre à la rédaction en cours. Autrement dit, il fait apparaître deux axes temporels qui coexistent sur la même page. Dans ce cas précis, les passages qui ont été très peu modifiés concernant la grande femme Jin, ainsi qu'un ensemble des stations. Les premières jouent un rôle essentiel. Elles instaurent un espace stable au cœur du monde chaotique de la forêt. Quant aux stations, elles ont pour point commun de l'envoyer très souvent à la mort. Elles évoquent les villageois tués lors d'une révolte locale, les étudiants morts à la Deuxième Guerre mondiale, ou encore les victimes de la guerre civile espagnole. Autant de voix réduites au silence. On comprend alors que ces voix disparues continueront pourtant de résonner dans le manuscrit, comme si elles affleuraient à travers les différentes couches du texte. C'est précisément dans cette superposition entre les passages stables et le strat des stations que se révèle la profondeur du travail d'Oe. Dans ce roman, une comparaison est établie entre le soulèvement de 1870 et le mouvement pour la sécurité 1960. À première vue, on pourrait donc penser qu'il s'agit d'un texte profondément ancré dans l'histoire japonaise. Mais en réalité, il résonne bien au-delà. On y entend aussi les voix des paysans qui participèrent au soulèvement de l'époque Edo, celles des étudiants engagés dans la Seconde Guerre mondiale, les écrits de Pascal, ou encore la voix de Sartre rendant hommage aux victimes de la guerre d'Espagne. Ces voix multiples se superposent et se répondent dans les différentes strates de manuscrits. C'est précisément à cet endroit, dans cet espace, où se croisent la lecture de l'œuvre et l'étude manuscrit, que l'on peut saisir toute la profondeur du travail Oe et comprendre comment ils tissent ensemble des temporalités, des expériences, des héritages intellectuels très divers. Appelez le roman Le jeu du siècle, Oe a continué à écrire pendant un demi-siècle. Si l'on examine ses manuscrits autographes, on constate que sa méthode d'écriture a considérablement évolué. Au fil du temps, on remarque notamment qu'il a pris l'habitude de tracer soigneusement des lignes de correction, ce qui permet de déchiffrer des expressions qui n'ont pas été retenues dans le manuscrit définitif. Tout d'abord, examinons le manuscrit de Lebebu Homme Nouveau, publié en 1983. Il s'agit d'une série de nouvelles qui dépeint la cohabitation entre un écrivain et son fils handicapé. Le titre de la série s'inspire d'un passage de la préface de Milton du poète anglais William Blake, Lars Up or Young Man of the New Age. Dans le manuscrit, les corrections suivent un rituel très précis. Elles sont d'abord entrées dans un cercle, puis soigneusement balayées d'un trait oblique. Le titre, qui comptait à l'origine 11 caractères, est ainsi encerclé et plus d'une centaine de lignes ont été tracées par-dessus. Malgré cette densité des marques, les mots supprimés restent parfaitement lisibles. Comme c'est souvent le cas chez Oe, un passage Biffer n'est jamais vraiment perdu. Il peut les apparaître ailleurs, dans un autre paragraphe ou dans une autre œuvre. On peut donc penser que Hoé ne supprimait jamais totalement ses phrases, mais les laissait en réserve, prêtées à être les investies dans un nouveau contexte. En ce qui concerne ce titre, il était formulé comme les jaunes d'une nouvelle ère, traduction fidèle à l'expression originale, Young Men of the New Age. Après les visions, il est devenu homme nouveau. En passant d'une traduction littérale à une traduction libre, le titre acquiert une portée plus universelle, comme un message adressé aux fils handicapés évoquer dans l'œuvre ou lecteur futur. Les traces de ce travail, qu'il s'agisse d'écriture ou de traduction, sont inscrites dans le manuscrit lui-même. Elles nous permettent de suivre presque pas à pas la manière dont Hoé cherchait le sens juste. C'est lui qui les honora le plus profondément. Hoé, en 1994, elle remporte le prix Nobel de la littérature. Dans le même temps, après avoir achevé la trilogie, il annonce qu'il abandonne la création romanesque pour se concentrer la lecture de Spinoza. Il continue à l'éditer des critiques, des essais, mais pendant longtemps, il n'écrit plus de romans. Mais en 1974 à 1976, bouleversé par la mort de son ami musicien Toru Takemitsu, elle prend la plume pour honorer sa mémoire. En 1999, elle publie le roman Chugaeri, supérieur, qui détaille la création d'une secte religieuse voulait attirer les raisons de l'affaire de Homme. Manuscrit de cette œuvre révèle un changement majeur dans la méthode d'écriture. Il s'agit de l'utilisation de crayons de couleur variée. Ces textes sont devenus plus colorés. L'ajout de couleurs à l'aide de crayons de couleur, par exemple, permet de percevoir le passage du temps à plusieurs niveaux sur une même feuille de crayon. Hoé a utilisé des stylos à plumes noires ou bleues depuis le milieu des années 1950 jusqu'à 1994. Ces corrections étaient donc faites dans la même couleur, ce qui donne en quelque sorte de manuscrit monochrome. Mais on peut dire que l'utilisation de crayons couleur à la fin du XXe siècle a ouvert de nouvelles possibilités d'écriture. Le manuscrit d'Adieu mon livre, publié en 2005, est le couvert de couleurs variées, comme s'il s'agissait d'une œuvre d'art. Le texte, corrigé au crayon de couleur bleu clair vert, est enveloppé de couleurs semblables à celles d'une aquarelle, devenir ainsi un nouvel objet. Bien sûr, les couleurs ont chacune une signification différente selon l'œuvre. Ce roman écrit par l'auteur Aje Choko Kogito raconte l'histoire de son ami architecte Shigeru Tsubaki qui complote une folie de vieillarde. Le manuscrit est une nouvelle forme d'expression pour l'auteur Aje. Dans ce manuscrit, plusieurs étapes du travail d'écriture peuvent être distinguées. Tout d'abord, la rédaction du texte au stylo plume, puis viennent les suppressions au crayon vert, suivi d'ajout, à nouveau au stylo plume. Ensuite apparaissent des indications d'expression au crayon rouge, puis de nouveaux ajouts au stylo plume. Avant d'autres suppressions au crayon bleu clair, et enfin une dernière série d'ajouts et d'expressions de stylo rouge. Autrement dit, sur cette seule une page, au moins huit opérations successives d'écriture et de correction ont été effectuées. La distinction par couleur permet de voir d'un seul coup d'un seul coup d'œil à quel moment du processus de chaque expression a été réalisée. Cette simple feuille suffira ainsi à révéler la dynamique de l'écriture d'oeil, faite de reprise, d'effacement et de retour constant sur le texte. Dans cette œuvre également, ces manuscrits reflètent son écriture. En d'autres termes, les couleurs dans les manuscrits d'oeil signifient des suppressions. Et les passages sans correction signifient qu'ils ont conservés comme éléments centraux depuis la phase de conception, de conception initiale. En regardant cette page, on constate qu'au centre, il n'y a ni couleur de crayon ni correction. Cela signifie qu'il s'agit d'une citation. Le but Cogito déclare vouloir se lancer dans un roman d'aventure plein de péripéties ou du commun, le roman de Robinson. Il se réfère alors à « Voyage au bout de la nuit » de Louis-Ferdinand Céline. Comme nous voyons ici, on voit, l'auteur a écrit le titre de Céline en français, « Voyage au bout de la nuit ». La majeure partie de cette page est consacrée à l'extrait suivant. « La grande défaite honte s'est doublée. » Et surtout ce qui vous a fait crever à tous, crever sans comprendre jamais jusqu'à quel point les hommes sont vaches. Quand on sera au bout du trou, faudra pas faire malin nous autres. Mais faudra pas oublier non plus. Faudra la compter tous sans changer un mot de ce qu'on a vu de plus sûr chez les hommes et puis poser sa chique, puis descendre. Ça suffit comme boulot pour une vie tout entière. Oer développe l'écriture comme une tentative de lutter contre l'oubli. En citant la phrase de Milan Kundera, la lutte de l'homme contre le pouvoir est une lutte de la mémoire contre l'oubli. Ainsi, les manuscrits d'Oer peuvent être considérés comme reflétant son style d'écriture, mais aussi comme une tentative de lutte contre l'oubli. En mettant l'accent sur les stations afin de faire entendre la voix des mots à des sans-voix. Pour finir, évoquant son dernier roman Banne Yoshikishu in Late Style, publié en 2013, à l'instar d'Edward Said, dans cet ouvrage tardif qui fait le bilan de sa longue carrière de 60 ans, les personnages et les œuvres qu'il a créées jusqu'alors apparaissent et échangent des paroles. De nombreuses œuvres littéraires y sont également citées et parfois langues étrangères sont utilisées telles quelles. Cette page contient le passage suivant en français. Je vois décrit quelque chose d'intime dans ma langue maternelle. Dans ma langue maternelle. Je commence. Il s'agit d'un extrait du journal intime que Kazuo Watanabe, le maître d'Oer, tenait pendant la Seconde Guerre mondiale. Ici encore, Oer fait entendre les paroles d'une personne déjà décédée pour tisser son dernier roman. En lisant attentivement les manuscrits autographes, nous pouvons nous aussi écouter la voix intime de l'auteur, prêter attention aux voix des autres qu'il convoque et nous imprégner de la joie de l'écriture. Je vous remercie à votre attention.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.